Nous acclamons notre Dieu, il est merveilleux. Nous acclamons notre Dieu, il est merveilleux. Nous acclamons notre Dieu, il est merveilleux. Que son nom soit béni. Amen. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci la chorale pour la louange de ce matin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse cette louange qui nous prépare à écouter la parole du Seigneur avec un cœur disposé, avec un cœur déjà préparé. Que Dieu vous bénisse. Nous tous, nous sommes témoins. Ce n'est pas un effort quelconque que nous avons fourni pour être là ce matin. Nous n'avons rien fait de spécial. Ce n'est qu'une grâce que tu as obtenue de la part du Seigneur. Ce n'est qu'une grâce que j'ai obtenue aussi de la part du Seigneur. C'est pourquoi, avant de commencer toute chose, malgré les stress, malgré la peur, mais nous ne pouvons pas ignorer cela et nous disons merci à notre Dieu pour ce matin. Nous disons également merci à notre Père, le frère Maurice, le pasteur Maurice, notre papa, qui est toujours une bénédiction pour nous et nous continuerons à prier afin qu'il demeure toujours une bénédiction pour son peuple. Merci papa pour la sélection de ce matin, que Dieu vous bénisse. Vous êtes beaucoup pour nous et cet encadrement nous fait, nous taille, nous forge, nous façonne et tu nous aides à devenir ce que le Seigneur veut que nous soyons. Que le Seigneur vous bénisse, vous ainsi que toute la famille. Merci également à nous tous ici présents. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous pouvez saluer celui qui est juste à votre gauche, à votre droite, si vous voulez saluer? Pesayembote. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. C'est très content d'être à côté de ton frère, d'être à côté de ta sœur. Kotale nami soma bete, l'homme parfait n'existe pas. Pesayembote. Il y avait des hommes parfaits que je connaissais. Malheureusement, moko akufa, moko abotamina noté. Donc, nous tous, nous avons des insuffisances. Alors, il ne faut pas se gêner d'être à côté de ton frère et de les saluer. Amen. Ce matin, je nous propose des tests qui occupent presque la même position. Premièrement, les tests de Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament, Matthieu chapitre 1, les versets 1 à 16. Et pour ceux qui n'ont, nous lirons aussi les tests de Genèse, chapitre 1, les versets 1 à 16. Mais dans un premier temps, nous lirons d'abord les tests de Matthieu. Genèse, peut-être nous verrons ça plus tard. Mais nous pouvons noter, c'est très capital pour nous ce matin. La Bible dit ceci dans Matthieu, généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères. Verset 3, Juda engendra de Tamar, Phares et Zara. Phares engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Amnadad, Amnadad engendra Nasson, Nasson engendra Salomon, Salomon engendra Boaz de Rahab. D'Érab, Boaz engendra Obed d'Érith, Obed engendra Isaï, Isaï engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Iri. Salomon engendra Roboa, Roboa engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, il y a des jolis noms ici. Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra Jotam, Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconia et ses frères. C'est joli. Au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salitiel. Salitiel engendra Zorobabel. Waouh. Zorobabel engendra Abid. Abid engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hashim. Hashim engendra Elium. Elium engendra Eleazar. Eleazar engendra Matta. Matta engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ, la parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons l'accueillir avec des cris de joie, des acclamations et des applaudissements? La parole de Dieu est vraie, la parole de Dieu est réelle, la parole de Dieu est parfaite, la parole de Dieu n'a pas de fraude. Ce matin, Seigneur, c'est ta parole, nous venons de lire. Je me tiens devant ton peuple, non par mon nom, mais par ton nom. Glorifie ton Saint-Nom du début jusqu'à la fin de cette intervention. Que ton esprit seul règne dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des tests, comme je l'ai dit, le test de Genèse que nous lirons plus tard, et celui de Matthieu nous venons de lire. Alors, connaissant aussi le thème de cette année, le sous-thème que je nous propose ce matin, je l'ai intitulé « Équation de la grâce dans la vie de Tamar ». Équation de la grâce dans la vie de Tamar. Équation de la grâce dans la vie de Tamar. Je relis encore le test de Tamar, l'histoire de Tamar. J'ai compris qu'il y a une équation ici, et cette équation, c'est vraiment une équation de la grâce. Alors, au regard de ces deux tests, l'un nous venons de lire, donc Matthieu, et l'autre nous lirons plus tard. Dans ces messages, nous allons voir trois points. Dans ces messages, nous verrons trois points. Le premier point, nous parlerons de le fondement qui fera l'objet de notre premier message, de notre premier point. Et le deuxième point, nous parlerons de qualité de Tamar. Il y en a beaucoup, mais j'ai sélectionné que trois. Les qualités de Tamar. Et enfin, le troisième point, nous allons voir ce matin, c'est la sélection divine, une équation de la grâce. La sélection divine, une équation de la grâce. Et nous savons tous, bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas bâtir une maison sans poser le fondement. C'est pourquoi le premier point porte le nom du fondement, parce que nous avons trois fondements que nous voulons poser ici avant d'aborder les deux autres points, les deux derniers points. Le premier fondement, c'est Tamar. Le premier fondement, nous voulons voir dans ce premier point qui est le fondement, c'est Tamar. En lisant la Bible, j'ai découvert trois Tamar. Je ne sais pas s'il y en a encore d'autres, mais je me suis arrêté à trois Tamar. Nous voyons Tamar, celle que nous venons de lire maintenant dans Matthieu, et son histoire dans son intégralité se trouve dans Genèse chapitre 38, que nous lirons plus tard. Son nom aussi est cité dans Ruth chapitre 4, lorsqu'on a cité le nom des enfants de Juda, on a fait aussi allusion à Phares et Zara, qu'il a eu avec Tamar. Son nom aussi est répété dans 1 Chronique 3, là nous voyons toujours 1 Chronique 2, je crois, là nous voyons aussi le nom de Tamar. Donc Tamar de ce matin n'est pas à confondre avec Tamar, la petite sœur de Absalom, qui était la fille de David, violée par Amon, et plus tard Absalom avait révolté, avait vengé cet acte que Amon, son demi-frère, avait commis contre sa petite sœur Tamar. Et nous pouvons voir cette histoire-là dans 2 Samuel chapitre, je crois que chapitre 13. On nous parle encore de notre Tamar qui était la fille de David, la petite sœur d'Absalom. Et le troisième Tamar, nous voyons ça dans 2 Samuel chapitre 14, le verset 27. Et là on nous présente les trois fils d'Absalom, plus sa fille Tamar. On dit une femme de belle figure. Donc nous comprenons, nous avons trois Tamar ici. Tamar, la fille d'Absalom. Tamar, la petite sœur d'Absalom, et Tamar, qui n'était pas la femme de Juda, mais avec Juda, le couple va avoir des enfants. Donc, partant déjà de cette brève présentation de Tamar, nous comprenons que chacun a son histoire. Même si les trois portent le même nom, même si les trois portent le même nom, et si vous vérifiez même la signification de chaque nom, c'est vraiment commun pour les trois, mais chacun a son histoire. C'est pourquoi il n'est pas bon de conclure la vie de X en fonction de l'histoire de Y. Parce que la grâce de Dieu ne nous permet pas de vivre la photocopie de X ou de Y. La grâce de Dieu, au contraire, fait de nous des originaux. La grâce de Dieu nous met dans le contexte où chacun pouvait vivre sa vie selon la marche avec le Seigneur. Donc la grâce de Dieu, c'est que nous devons comprendre dans cette brève présentation de Tamar, que même si nous portons le même nom, enfant de Dieu, même si nous portons le même nom, nous sommes membres de l'Église, même si nous portons le même nom, nous sommes citoyens de ce pays, mais chacun a son histoire. Et la grâce de Dieu dans ta vie ne te fera pas que tu puisses être la photocopie de l'autre, parce que un homme qui vit dans la grâce de Dieu, son regard n'est pas tourné à gauche ni à droite, mais son regard est tourné vers Jésus-Christ qui est l'auteur de la grâce. Alors, peu importe l'influence des autres, toi fixe tes regards vers le Seigneur. Parce que dans la grâce, chacun a son histoire. Ça, c'était le premier fondement. Le deuxième fondement, c'est la notion du mot équation. Parce que nous sommes en train de parler sur l'équation de la grâce dans la vie de Tamar. Par définition, une équation, c'est la recherche d'un inconnu dans un problème pour trouver une solution. La recherche d'un inconnu dans un problème pour trouver une solution. Et une équation laisse toujours les gens dans l'étonnement. Une équation laisse toujours les gens dans le suspense. Par exemple, en mathématiques, on peut dire, donner la valeur de X dans cet exercice. Ça laisse toujours les élèves dans le suspense, dans l'étonnement, dans le qu'est-ce que c'est. Mais l'équation de la grâce, c'est quoi? L'équation de la grâce, ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, il s'agit des meilleurs résultats que Dieu nous donne. L'équation de la grâce, il s'agit des meilleurs résultats que Dieu nous donne, dont le procédé reste inconnu. Le meilleur résultat que Dieu nous donne, dont le procédé reste inconnu, inexplicable, incompris ou encore insupportable. Autrement dit, vous avez les résultats, mais vous ne savez pas exprimer aux autres comment vous avez fait pour trouver ces résultats. Équation de la grâce. Vous avez les résultats, mais vous êtes incapable d'expliquer les gens la manière dont vous avez fait procéder pour trouver ces résultats. Quelques semaines passées, un frère m'a posé la question, « Frère Dekasso, nous t'avons vu comment venir ici. Maintenant, j'aimerais savoir, dis-moi la vérité, qu'est-ce que tu as fait pour commencer à prêcher à la borne Matadi ?» Je lui ai dit, « Je ne sais pas. » Il était un peu déçu parce qu'il voulait entendre une réponse. Il a tellement insisté. J'ai dit, « Frère, je ne sais pas. » Alors, j'ai vu son apparence, il était comme déçu. Alors, je commence à réfléchir dans ma tête quelques éléments de réponse pour lui satisfaire. Et heureusement pour moi, à chaque fois, j'ai trouvé un élément de réponse, une voix qui me disait, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et même quand je voulais lui dire que parce que je priais, une voix m'a dit, ce n'est pas ça. Je lui ai dit, frère, je n'y sais pas. Et le frère était parti de si parce que je n'avais pas donné la réponse de ce que lui l'avait constaté. Et j'ai compris une chose. La grâce nous donne et la grâce nous prive. La grâce est capable de nous donner le meilleur résultat, mais il nous prive le mot pour exprimer la manière dans laquelle nous avons trouvé ce résultat. Bien-aimé dans le Seigneur, si tous les meilleurs résultats dans ta vie sont justifiables par un effort humain ou intellectuel, tu es à côté de la grâce. Tu es à côté de la grâce. Si tous les résultats obtenus dans la vie sont toujours justifiés parce que je suis beau, parce que je suis belle, parce que j'ai étudié, parce que j'ai ceci, parce que je fais ceci, sache-le que tu es à côté de la grâce. Alors, regardons le texte de Ésaïe 44, le verset premier. Réjouis-toi stérile, oui, le pasteur nous a dit ceci. Ce verset, on trouve une bonne concentration des déclarations illogiques. Et l'une était intéressante, qui était aussi intéressante pour nous. Le pasteur avait dit ceci, que le fils de la délaissée seront plus nombreux que le fils de celle qui est mariée. Une déclaration illogique, une équation de la grâce. Nous avons la conclusion, nous avons le résultat que le fils de la délaissée seront plus nombreux. Mais explique-nous de quelle manière ils seront plus nombreux que celle qui est mariée. C'est inconnu, incompris, inexplicable. Et si le pasteur essaie à nous expliquer, nous tous nous dirons, waouh, comment ça? C'est insupportable. C'est ainsi que la sœur Rachel nous a dit ceci le vendredi. Dieu ne procède pas toujours aux moyens humains pour résoudre les problèmes humains. Vous savez que l'équation de la grâce, Dieu te donne les bons résultats, mais tu manques le mot pour l'exprimer. Et les gens constatent toujours. Et dans la vie de Tamar, c'est ce que j'ai découvert. Elle a eu des résultats, mais quand on te pose la question, explique-nous réellement qu'est-ce qui s'est passé pour que Tamar arrive à ces bons résultats. Eh bien, tout ce que nous pouvons dire, nous serons divisés en deux. Certains diront qu'elle avait mal fait. D'autres diront que non. On reste toujours dans les suspense. Vous savez qu'un homme ou une femme qui vit dans la grâce, ça, elle a gagné calculité. Ça, elle a gagné calculité. Les gens restent toujours dans les suspense. Et les avis sont toujours partagés. Et puis on dit non, mais qu'est-ce qui se passe? Nous voyons les résultats. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il arrive à ces résultats-là? Oh non, il a fait ceci. Non, il n'a pas fait cela. Oh non, il a fait ceci. Bien-aimé, un homme, une femme qui vit dans la grâce de Dieu, ça, elle a gagné calculité. Ça, elle a gagné calculité. Le troisième fondement, c'est vraiment lié avec les raisons de ces messages. Parce que je me suis posé pourquoi une question, pourquoi aborder ces messages de Tamar? J'ai trouvé des réponses qui sont comme les raisons que j'ai liées dans ces fondements. J'avais vraiment du mal à préparer ces messages. La première raison qui est comme le troisième fondement, la première raison que j'ai trouvé pour aborder ces messages, et que l'homme qui a la grâce de Dieu ne perd rien.
Même si les années passent, même si le monde le trompe, Dieu est capable de les récompenser même autrement. Maintenant, quand vous l'avez trompé, vous êtes d'accord. Mais quand Dieu les récompense autrement, c'est là que les gens ne sont pas d'accord. C'est ça l'équation. Lorsque vous l'avez trompé, vous étiez tous d'accord. Mais lorsque Dieu les récompense autrement, ça devient... Non, ils la mandé. Oh, mais tu étais prêt de les tromper. Maintenant, Dieu les récompense autrement, non, de Nguanate. Non, le bien-aimé dans le Seigneur, un homme qui vit dans la grâce, même si les années passent, il ne perd rien. Vous savez que les années ont tellement passé avec Joseph, ses frères l'ont déplacé. Or, en le déplaçant, pour Dieu, c'était un emplacement pour que le rêve se réalise. Parce que les frères de Joseph avaient oublié que le rêve ne se réalisera pas forcément dans le lieu dans lequel où il a eu ça. Tu peux avoir le rêve ici et se réaliser ailleurs. Tu peux avoir les rêves ici. Et les frères ne comprenaient pas cela. Les années ont passé. Joseph était déplacé. Mais Joseph n'avait pas perdu quelque chose. Bien-aimé, ma sœur, mon frère, même si les hommes commencent à te dire que non, le temps passe. Et où, Méli? La bonne nouvelle pour toi, tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre. Oh non, bako, si on peut m'y venger. Non, l'homme qui vit dans la grâce ne venge pas. Parce que Dieu le défend déjà. 20 fois, 20 ans, il a travaillé chez là-bas, son oncle. Et 10 fois, on a changé son salaire. Mais la suite, nous savons quoi? Dieu l'a défendu. Dieu l'a défendu. L'homme qui vit dans la grâce de Dieu ne perd rien. Même si le temps passe, même si les années passent, et même si le monde le trompe, Dieu est capable de les récompenser autrement. Autrement. Et la deuxième raison, ça m'a vraiment bouleversé. J'ai compris que dans l'histoire de Tamar, Dieu peut utiliser la faiblesse d'un homme comme un moyen pour résoudre un problème difficile. Ça, c'est vraiment une équation. Dieu utilise la faiblesse d'un homme comme un moyen pour résoudre un problème difficile. Ce qui est bizarre dans l'histoire de Tamar est que Tamar avait perdu 2 maris successivement. Elle est restée veuve. Et pendant 7 ans, elle attendait chez la grandie. Nous allons voir ça dans le deuxième point. Grandie pour devenir son mari. Et pendant 7 ans-là, Tamar ne courait pas derrière les hommes. Elle était restée là dans la maison de son père. Ce qui est bizarre, Sheila n'a jamais devenu le mari de Tamar. Mais ce qui est bien, Tamar n'était pas morte sans enfant. Elle a laissé des enfants. Ce qui était bizarre dans l'histoire de Tamar, Tamar avait perdu 2 maris. Mais ce qui est bien, Tamar avait enfanté 2 fils. Elle a perdu 2 maris et elle a enfanté 2 fils. Ce qui est bizarre, Tamar s'est déguisée comme une prostituée. D'ailleurs, on la traite de prostituée parce qu'elle s'est déguisée. Nous verrons ça plus tard. Mais ce qui est bien, l'un des fils de Tamar est devenu ancêtre de Jésus. Ce qui est bizarre, encore, Juda l'avait trompé. Juda l'avait trompé. Mais toujours avec ce Juda, le couple va former comme les ancêtres de Jésus. Parce que dans ce couple, nous trouvons la descendance de Jésus. Dans ce qui était bizarre, le Seigneur a fait sortir quelque chose de bien. Dans ce qui était bizarre, le Seigneur a fait sortir quelque chose de bien. Mon frère, je ne connais pas ton cas. Si tu nous dis ça, ça sera vraiment bizarre. Mais comme nous parlons de la grâce, ma prière est que dans ce que les gens trouvent bizarre, que le Seigneur fasse sortir quelque chose de bien. C'est bizarre, mais c'est bien. C'est l'équation de la grâce. C'est bizarre quand on regarde ça, mais comment ça? C'est vraiment bizarre. Aller vers une prostituée, c'est bizarre. Mais ce qui est crié, eh bien, l'enfant qui était né, Jephté, c'est lui qui sera le vaillant, le juge en Israël. Aller vers une prostituée, c'est bizarre, Gomer, la femme de Osée. Mais ce qui est bien dans ce qui est bizarre, les 3 fils de Osée, le nom encore c'est Jigrel, Loroshima et Lohami. Ces 3 noms nous aident de comprendre les prophéties de Osée. Parce que leur nom est significatif. Donc sans les 3 noms de ces enfants, ça sera difficile pour nous de comprendre aussi les prophéties de Osée. Ce qui est bizarre. Mon frère, je ne suis pas venu t'encourager dans le bizarre. Non. Mais je suis venu te prêcher que la grâce, que dans ce qui est bizarre, le Seigneur est capable de faire sortir quelque chose de bien. Et de bien pour toi. De bien pour toi. J'ai cherché beaucoup d'exemples, je n'ai pas trouvé supportez-moi aujourd'hui de donner mes propres exemples. Je suis né dans un quartier très bizarre, où la destinée, merci mon frère, moi dans le nord, dans un quartier où la destinée des gens était connue. Soit tu es sapeur, soit tu es joueur, soit tu es musicien, soit tu es brigand. Donc quand tu es là, un jour je jouais au ballon au quartier, j'étais encore je ne sais pas à quel âge, mais moins âgé qu'aujourd'hui. Alors un grand frère m'a dit, ah, papa dit, vous allez rendre des gauchers, pas gaucher mais des gauchers. Ah, vous voyez, bah gaucher, ma poste n'a pas 11 ou 7, pour que je puisse faire ma centre dans 9. Pourquoi tout dans notre sport? Parce qu'il y avait une équipe du quartier où on trouvait les grands frères du quartier. Même dans le comité, les grands frères du quartier, c'était vraiment l'héritage pour nous. Alors, ça, aux yeux du plan d'État, ok, dans notre sport. Ni t'étais la grâce, le croissant de la grâce. Moi, là, je ne sais pas. C'est dans un peu ça, centre, où on a 9, bah, charababi. Le croissant de la grâce. Et mes parents, à l'époque, ont fait un effort de sécuriser au moins la parcelle pour que nous n'ayons pas influencé par le milieu. Mais malgré ça, vous pouvez sécuriser la parcelle contre le Kuluna, mais pas contre les mauvais esprits. Pas contre l'influence négative. Et moi, j'étais victime de cela. Malgré toutes les dispositions de mes parents, mais un jour, en 2007, c'est là où tout a commencé. C'était vraiment très bizarre. Subi une intervention chirurgicale. Et bizarrement, je me suis retrouvé seul à l'hôpital comme interné. Le matin, les gens venaient prendre soin et partaient. Et c'était le seul à rester. La plaie évoluait très bien et on m'a dit dans une semaine tu vas quitter l'hôpital. Curieusement, le jour où je devrais quitter l'hôpital, c'est le jour où on m'a encore intervenu pour la deuxième fois. Ce qui est bizarre, jusqu'à présent, personne ne m'a dit pourquoi on m'avait intervenu pour la deuxième fois. Je ne sais pas. Ni le corps soignant et même l'un de mes sœurs fait partie de l'équipe et personne ne le sait. Aujourd'hui, je porte une cicatrice, je ne connais même pas la signification. C'est vraiment bizarre. Mais ce qui est bien dans cette histoire, c'est quoi? C'est pendant que j'étais à l'hôpital, c'est là où j'ai vu un groupe de gens venir nous prêcher. C'est là où que j'ai donné ma vie en Jésus-Christ. Ce qui est bien dans cette histoire, c'est quoi? Un jour, je dormais avec mon Nouveau Testament, et une sœur de cette église, je ne la connaissais pas à l'époque. Je la voyais comme la collègue de ma grande sœur, Maman Brigitte du département de l'évangélisation. Elle m'a vu avec un Nouveau Testament, et le jour suivant, elle m'a apporté sa Bible. La Bible que je prêche aujourd'hui, c'est quelqu'un qui m'a donné ça en 2007. Ce qui est bien encore, c'est quoi? Depuis cette année-là, jusqu'aujourd'hui, aller à l'hôpital, c'est pour aller visiter les malades, prier pour eux. Moi-même, je ne connais pas la porte de l'hôpital. Vous savez que, à partir de ce qui est bizarre, le Seigneur est capable de faire sortir quelque chose de bien dans ta vie. Et quand tu regardes l'histoire de ta main, ça paraît vraiment très bizarre. J'ai même l'impression que les gens qui ont vécu à l'époque de Tama ont condamné Tama. Ils ont pointé les doigts sur Tama. Tu es prostituée. Tu es bizarre. Comment tu dois faire ça? Et lorsqu'ils ont su que la grossesse était de Jida, ils ont dit encore à Jida, toi aussi. À peine qu'on a couffé lui, moi aussi. Au lieu que même n'a jeune fille, mon Jésus n'a prostituée. Mais nous qui lisons l'histoire aujourd'hui, nous qui voyons la descendance de Tama et Jida aujourd'hui, nous sommes dans les suspens. Nous n'avons pas la même considération dans Batou et Akala. Vous voyez, Bikenza, Mazana, ma coquille a créé ma considération différente, mais dans l'histoire Mokokara. La même histoire, mais les gens qui ont vécu ça, et nous qui lisons ça aujourd'hui, nous n'avons pas la même considération de cette histoire. Donc, le poisson de la grâce, Dieu est capable de récupérer ton histoire afin que tu sois accepté dans le présent. Le poisson de la grâce. Ni t'étais le poisson de la grâce, on n'allait pas parler de Tamar aujourd'hui. L'histoire reste l'histoire. Mais dans le poisson de la grâce, Dieu est capable de récupérer ton histoire qui est déjà passée, mais juste pour que tu sois accepté aujourd'hui. Et le poisson de la grâce, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire de Tamar. Bien-aimé dans le Seigneur, l'histoire reste la même, mais la considération a changé. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas encore donné ta vie en Jésus-Christ, donne ta vie en Jésus-Christ. Tu verras comment l'équation de la grâce va s'activer dans ta vie. Le deuxième point, comme prévu, c'est quelques qualités de Tamar. Mais ça sera un peu compliqué de parler des qualités de Tamar sans connaître le contexte dans lequel nous sommes en train de parler ici. C'est vrai qu'au premier point, j'ai survolé, mais il est quand même important de comprendre le contexte dans lequel nous sommes en train de parler de Tamar. Le deuxième test, c'est Genèse chapitre 38, la technique peut nous aider. C'est un long test, mais nous lirons seulement un seul verset qui va nous donner la lumière pour la suite. La Bible dit, j'aime ma Bible, il y a une histoire ici. Donc vous lisez là-bas, moi permettez-moi de lire dans ma Bible. Genèse chapitre 38, le verset 1 à 16, mais nous lirons seulement le premier verset. La Bible dit ceci, en ces temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme, Adulam, nommé Ira, en ce temps-là. Dans d'autres versions, on dit à la même époque. Dans d'autres versions, on dit encore à cette époque-là. À ce temps-là. Maintenant, posons-nous la question, il s'agissait de quel temps? Parce que nous voulons parler des qualités de Tamar, mais comprenons au moins le contexte avant d'y arriver. Il s'agit de quel temps? Le temps où Joseph était vendu. On fait allusion à ce temps-là. Au temps où Jacob plairait son fils Joseph. Parce que selon l'histoire, dans Genèse 37, Joseph était vendu par ses frères. Et deux personnes qui ont joué un rôle majeur dans l'histoire de Joseph. Le premier, c'était Ribet, le fils aîné. C'est lui qui a proposé à ses frères de ne pas le tuer, mais le jeter dans la citerne. Et la deuxième personne, c'était le fils Juda, le quatrième fils. C'est lui qui a proposé à ses frères, au lieu de les garder toujours à la citerne, vendons-les et gagnons quelque chose. Alors, lorsqu'ils ont fait ça, ils ont rentré dans le pays. Ils ont donné l'information à Jacob. Alors, Jacob plairait son fils. Et la tradition juive dit, c'est Juda qui était le responsable. Étant donné que c'est lui qui avait donné l'idée de vendre Joseph, donc on prend la charge, on met ça sur les épaules de Juda. C'est pourquoi dans les groupes, il faut être sage avant de prendre une décision. Il faut être sage avant de prendre une décision. Des fois, il faut beaucoup réfléchir. Et Juda, ils étaient nombreux, ils ont vendu. Mais la tradition juive porte le fardeau sur Juda. C'est pourquoi Juda, à chaque fois il voyait son père pleurer, Juda avait la culpabilité, il ne pouvait plus supporter de voir son père, parce qu'à chaque fois il voyait son père pleurer, d'autres frères lui regardaient, mais quand tu penses qu'il est au tekaï, et Juda n'a pas pu supporter cela. Pour bien vivre, il a dit quoi? Je me sépare de vous. Il a laissé sa famille, c'est à ce temps-là il s'est rendu à Cana. Il a rencontré son ami Ira, et il a trouvé une femme au nom de Shua. Successivement, le couple va avoir 3 enfants. Nous connaissons très bien cette histoire. Er, Ona et Shéla. Il trouve pour Er la femme, c'est Tamar. Le couple va évoluer. Curieusement, et Er va mourir pour des raisons que vous connaissez. Je vous épargne les détails. Et la loi dit, si le grand frère meurt, le petit frère prend la relève. À l'époque, pas aujourd'hui, mais à ces temps-là. Le petit frère prend la relève. Oh non, frère, dit Mutaloba Indengwanate. C'était dans la Bible à l'époque. Pas maintenant. Le petit frère a récupéré la grande sœur. Et le petit frère, on a aussi quelques temps après, mais nous connaissons ses forfaits. Il meurt. Alors, en principe, c'est le troisième fils qui est chez là qui devrait prendre la relève. Malheureusement, Juda commence à avoir des idées. Non, si je donne encore mon cadet, le cadet risquerait de mourir. Alors, Tamar, retourne dans ta maison, dans ta famille, en attendant chez là puisse grandir. Tamar, par l'obéissance, est rentré. Mon frère, un homme qui vit dans la grâce, Azayou Manaote. Un homme qui vit dans la grâce, une femme qui vit dans la grâce, Azayou Manaote. Oh, Petro, on a manipulé la haute. Non, Azayou Manaote. Tant qu'on a manipulé, on a sépulé. Mais le jour où nous avons récompensé, ils ont appelé à monter, ils ont supporté. Oh non, Tamar, retourne d'abord dans ta famille. Bon, ça va, papa, je vais retourner. Elle rentre. Les années passent. Shéla grandit. Mais, Azouya Kagate, et Shéla, Boga, Pichu Pinza, Bayana, et Pinza, Shéla Lekibango. Bon, je ne sais pas, dans des familles, c'est toujours des petits frères qui sont plus beaux que des grandes sœurs. Lekinouta, Lekinagito. Mais, Baba Betty, ma petit frère, Bazagito, que Bayaya. Shéla. Pour Shéla, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire pour elle. C'est aujourd'hui aussi, peut-être c'est le cas pour toi, tu es en train d'attendre quelque chose de précieux pour toi. Elle attendait. Les années passent, les mois passent, les semaines passent, les jours passent, mais rien n'est passé. Tamar dit, bon, on m'a dit d'attendre. Et moi aussi, je suis resté en attente. Et la première qualité, c'est quoi? Tamar plutôt avait constaté, hier, ça n'y va pas. La première qualité de Tamar. La Bible dit, Tamar a constaté, Shéla grandissait, mais il n'était pas donné en lui comme un mari. Mon frère, ma sœur, la grâce ne nous empêche pas de constater des choses tout autour de nous. Vous savez, un homme qui n'arrive pas à constater le bien ou le mal tout autour de lui aura du mal à prendre une décision. Tamar a constaté, non, cet homme Jida, c'est vrai, il m'a promis, mais Tamar peut accoler. Mais Azoya Kakate, elle a constaté cela. Le mal que nous avons aujourd'hui, que beaucoup de gens n'arrivent plus à constater le bien ou le mal tout autour de lui. Or, le constat peut te permettre de changer une position pour bien prier parfois dans la vie. Le constat, et ce qui est encore plus bizarre, c'est quoi? Lorsqu'il y a l'abondance de foi, il y a l'abondance, et quand tout va bien physiquement, on n'arrive plus à constater ce qui va mal spirituellement. Tamar avait constaté que non, il y a une violation de loi ici. Mon frère, constate un peu qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Constate un peu. Beaucoup d'années passées, je disais à un grand frère, je ne sais pas il a quel âge aujourd'hui, mais à l'époque, 42 ans. Il a dit, c'est vieux, ah, je peux épouser Nathalie. Ce que ça lui dit. Vieux, ah, je peux épouser ce que ça lui dit. Même si tu as un soutien, mais tu as un autre qui est là. Non, mais on est solo, ni fini, attendu. Bon, petit, ce que ça lui dit. Bon, non, c'est insouciable. Il ne constate rien. La sensibilité, la capacité de constater des choses. Non, ces derniers temps, je ne prie plus comme je priais avant. Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut constater. N'attendez pas d'abord les gens de l'extérieur puissent commencer à te prier. Vous savez que lorsque le mal commence à être dévoilé à l'extérieur, c'est que comme déjà ébellé. Si les gens, comprenez, hein, c'est mon quartier là, il y a vraiment influence des quartiers. Si les gens commencent à constater à l'extérieur, c'est qu'à l'intérieur, c'est déjà constaté. Qu'est-ce qui ne va pas? Tamar avait constaté. Il a dit non, ce n'est pas comme ça nous sommes convenus. Ce n'est pas comme ça nous sommes convenus avec mon père. Elle avait cette sensibilité. Imaginez aveugle Bartimée. Il ne voyait pas. Mais il savait distinguer les différents cris dans la foule. Il ne voyait pas. Mais il a constaté, non, mais quel est le cette sensibilité-là, non. Qui passe? Au Jésus de Nazareth qui passe. Il a crié. Constater, la sensibilité de constater. Ce qui est encore plus bizarre, beaucoup de gens sont trop sensibles dans Makamba Batou. Mais ils ne sont pas sensibles pour des choses qui les concernent. Ils ne sont pas sensibles. Ils sont prêts. Mon frère, Mkolo Namono Penza, viens t'en. Ma sœur, toi, Laksana. Ah, ces derniers temps, je vois, ça ne va pas. Très sensible aux choses qui n'ont rien à voir à leur vie. Mon frère, sois sensible aux choses qui concernent ta vie. Sois sensible aux choses qui concernent ta vie. Tu constates trop dans la vie d'autres personnes. Tu constates trop, mon frère, dans d'autres familles. Tu constates trop. Oh non, ces derniers temps, tu commences à venir beaucoup ici. Ça signifie quoi? Non, constate d'abord dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Qu'est-ce qui se passe? Ta mère a constaté qu'il y a un sang. Ça ne va pas dans sa vie. L'âge avance, le temps passe. L'enfant est là, elle a grandi, il est adulte. Et puis, Abongi Nanga. Mais le père refuse de me le donner. Il a constaté. Constaté des choses, mon frère. Constaté. Néhémie, Daniel, ils ont eu la grâce de travailler dans un palais royal. Mais Daniel avait constaté que non, les 70 ans. Pas les 70 semaines, hein, mais les 70 ans des années civiles étaient écoulées. Il a prié. Néhémie a constaté, non, c'est vrai qu'il y a des avantages ici, mais je dois me déplacer. Parce qu'il y a un, ça ne va pas là-bas. Constater quelque chose dans ta vie. Le constat que tu peux faire, ça peut apporter un changement tout autour de toi. Constate quelque chose. Rappelons-nous que la grâce ne nous permet pas de vivre comme la photocopie des autres. Si les autres ne constatent rien, pas constate. Constate. Peut-être ton arrivée, c'est pour apporter un changement. Vous savez que si tu n'influences pas les milliers vont t'influencer. Constate quelque chose. Constate ce qui ne va pas dans cet endroit. Constate une chose. Tamar avait constaté ce qui était la première qualité de Tamar. La deuxième qualité de Tamar, Tamar avait la connaissance de la parole de Dieu. Tamar savait, dans leur culture, il y a une loi qui dit, c'était dans Deutéronome 25, les mariages entre beau-frère et belle-sœur. C'était ça comme un soubassement. La patience de Tamar n'était pas vaine. La patience de Tamar n'était pas en l'air. La patience de Tamar n'était pas émotionnelle. ou sentimental. La sœur Rachel nous a dit le vendredi, le sentiment peut nous tromper, mais pas la connaissance. Tamar avait la connaissance. Vous savez que la connaissance produit trois choses dans la patience. La première des choses, la connaissance nous donne sens à notre patience. Les gens ne comprennent pas au patient. Non, je patiente parce que j'ai entendu une voix. Je ne patiente pas en l'air. Je ne patiente pas dans le vide. Je ne patiente pas par des sentiments ou les émotions. Non, j'ai entendu une voix. Tamar avait reçu une promesse de Judas. Tamar avait reçu une parole de Judas. Vous savez que quand un homme patiente avec une parole, ne le critique pas. Quand une femme patiente avec la connaissance, ne la critique pas. La patience apporte un sens. Non, la connaissance apporte un sens dans notre patience. La deuxième chose que la connaissance apporte dans notre patience, c'est la constance, la résistance, la subsistance. Quand tu patientes, les tentations viennent, mais je ne tombe pas parce que j'ai une connaissance. Quand je patiente, les épreuves viennent. Des fois, la maladie, des fois. Mais je ne cède pas, je ne m'abandonne pas parce que j'ai entendu une voix. Et quand tu patientes, parfois, il y a aussi des conseils d'Achitophel à Salomon. Des bons conseils, mieux le, mais si tu la mets en pratique, si tu le mets en pratique, ça te désoriente. Achitophel était un bon conseiller à David, mais pas à Absalom. Des bons conseils, mais si tu l'appliques. J'ouvre une parenthèse pour les jeunes. Excusez-moi le vieux. Je ne crée pas la rébellion, excusez-moi. Nous avons besoin d'écouter les conseils. Mais tout ce que les vieux disent n'est pas forcément vrai. Il faut avoir le discernement. Ça c'est de un. De deux, un homme qui a échoué aide difficilement une personne à réussir. Alors quand quelqu'un te donne le conseil, sois sage. Je ferme l'emparenthèse. N'allez pas dire ça aux vieux, hein, j'ai parlé aux jeunes. Ne m'accusez pas aux vieux, j'ai parlé aux jeunes. Le conseil, la constance, la persévérance, la subsistance, la connaissance nous aide à rester. Et même quand on donne le conseil, gloire à Dieu, je ne ferai pas ça. La constance, la subsistance, la connaissance nous aide à résister devant le vent, devant les tentations, même devant les conseils d'Achitophel. Je crois qu'à l'époque de Tamar, il y avait aussi des jeunes filles qui disaient à Tamar, mais Tamar, bah, tu peux m'abaler, est-ce que kaka chez là, kaka il faut oser là. Non, toi tu n'as pas entendu. Oh non, là j'ai avancé, d'ailleurs chez là a trouvé une autre femme. Bon, il a trouvé une autre femme. Mais ce qui est bien, je n'ai rien à perdre. Je n'ai rien à perdre. La troisième des choses, la connaissance de la parole de Dieu la connaissance de la parole de Dieu finit toujours à apporter la réjouissance comme récompense dans la vie de celui qui a patienté. La connaissance de la parole de Dieu finit toujours à apporter la réjouissance après un temps de la patience. C'est pourquoi quand tu vois un homme connaît les Écritures, a reçu une parole de Dieu et patiente, ne les critique hein, pas. La suite sera toujours à sa faveur. Cette femme qui patiente, la suite sera toujours à sa faveur. Et Tamar patientait avec connaissance. Tamar, les amis pouvaient dire, mais l'âge est avancé. Sheila, comment tu vas faire? Et Tamar pouvait dire, je ne sais pas quoi faire, mais ce qui est vrai, je n'ai rien à perdre. Je n'ai rien à perdre. Et le troisième point, comme qualité de Tamar, Tamar était une femme ouverte. Parce que la personne qui était venue informer à Tamar qu'on a vu ton mari là-bas, Tamar ne savait absolument rien de ce qui s'est passé. Après la mort de Shua, le mari de Juda, le temps passe. Elle voyait seulement Sheila grandir, mais il n'y avait pas un mot. Tamar ne savait absolument rien. Mais la Bible nous dit, dans Genèse chapitre 38, oh là là. Bon, la technique peut nous aider. Dans Genèse chapitre 38, un peu plus haut, nous voyons qu'on vient informer à Tamar que... Tamar, voilà. On en informe. Voilà. Et Tamar, ton mari, non, ton beau-père, a perdu sa femme et puis elle a pleuré, tout est fini. Et maintenant, il a monté à Tima pour aller tondre ses brebis. Voilà. Tamar n'avait pas cette information. Quelqu'un est venu envers lui. Bien-aimé dans le Seigneur, cette qualité est tellement très bonne pour nous, les enfants de Dieu. Si ça dépendait que de nous, faisons un effort d'être en bon terme avec tout le monde. Parce que nous ne savons pas qui pourra nous amener la bonne nouvelle. Tamar, quelqu'un est venu lui informer de ce qui s'est passé. Et à partir de cette information-là que Tamar a trouvé un moyen. C'est à partir de cette information-là que Tamar a trouvé un moyen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bien avec tout le monde. Parce que vous ne savez pas qui peut vous apporter l'information. Et ce que Tamar a fait, il a fait ça, c'était bien. Où nous apprécions la descendance de Jésus. Là encore, c'est une équation de là et la grâce. On reste toujours dans les suspens. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai que l'heure est avancée. Mais permettez-moi de dire juste un mot pour le troisième point, qui est la sélection divine comme une équation de la grâce. La Bible nous présente plusieurs noms, les noms de plusieurs personnes, de beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de choses dans l'histoire de la Bible. Mais je suis en train de faire une étude personnelle, scruter un peu la Bible, de voir des listes où certains noms sont cités par rapport à quelque chose. Je n'ai pas encore fini mes recherches, mais j'ai trouvé des listes. La liste des héros de la foi. On nous présente certaines personnes qui ont marqué l'histoire. Et si vous voyez bien dans cette liste, Daniel, son nom n'est pas là. Malgré la foi, tout ce que Daniel avait fait. Les trois compagnons de Daniel qui ont pris le risque d'être jetés dans la fournaise ardente, leur nom ne se figure pas là-bas. Même l'homme à qui Jésus a dit, je n'ai jamais trouvé un homme qui puisse avoir la foi en Israël, comme ces centeniers. Jésus avait été impressionné de sa foi. Mais dans la liste des héros de la foi, son nom ne se figure pas là-bas. Même la femme à la perte de sang, son nom ne se figure pas là-bas. La deuxième liste, c'est la liste de la généalogie de Jésus-Christ. Dans cette liste, on ne nous parle que de 5 femmes. On nous parle de Tamar, de Rahab, de Ruth, de Bathsheba et de Marie. L'histoire commence par Abraham engendra Isaac. Je dis, mais l'auteur allait perdre quoi s'il dit Abraham engendra de Sarah Isaac. Mais la Bible dit Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Mais autour de Juda, on dit Juda engendra de Tamar. Mais si c'était vous et moi comme l'auteur de ces livres, est-ce qu'on allait mettre vraiment à l'écart Sarah, celle qui a marché avec les patriarches? Est-ce qu'on mettrait à l'écart Rebecca, celle qui avait la révélation dans ton ventre, il y a des nations? Est-ce qu'on mettrait à l'écart Léa, celle qui est restée longtemps avec Jacob? Je dis, bon, si vous voulez garder le nom de Tamar, mais gardez aussi au moins le nom de Sarah de côté. On met Tamar. On met le nom de Tamar. Malgré tout ce que Sarah a fait, son nom n'est pas là. La sélection divine, c'est une équation de la grâce. C'est pourquoi, si tu es choisi, bénis Dieu. Si tu n'es pas choisi, bénis Dieu. Si tu refuses de bénir Dieu parce que tu n'es pas choisi, tais-toi. Parce que les critères, c'est le domaine de Dieu. C'est une équation de la grâce. Et la Bible dit, Tamar va avoir des enfants. Pharez et Zara, soit Péré ou Zéré, dans le Nouveau et l'Ancien Testament. Et on dit, Pharah va avoir Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Amnadad. Amnadad engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra des Rahab. Vous savez, un homme qui vit la grâce, des fois, il y a pas au ben d'ogar pour élémaner Kotanakat. Or, s'il faut analyser la vie de Tamar, Tamar est la descendance de Cham, le Cananéen. Cham est le deuxième fils de Noé. C'est lui qui a vu la nudité de son père et qui était maudit par son père. Dans cette descendance de la malédiction, on retrouve qui? Tamar. Mais dans cette même descendance aussi, on le retrouve dans la lignée de Jésus. Il est vraiment, ne fais pas les calculs à un homme ou à une femme qui vit dans la grâce de Dieu. Il y a une équation là-bas que les gens ne comprennent pas. Et même Rahab aussi est de la descendance, elle est cananéenne. Et la Bible dit, Salomon ayant engendré des Rahab, Rahab la prostituée. Juste une parenthèse, elle était prostituée avant la tombée de Jéricho. Lorsque la Jéricho était tombée, elle ne faisait plus cette profession. Parce que Zaina babita bakoufaki. Alors c'est pourquoi j'ouvre une parenthèse encore pour donner un conseil. Quand Dieu enlève ce qui t'amène dans le péché, toi aussi ne pars pas dans le péché. Toi-même tu n'arrives pas, mais le Seigneur a enlevé quand même les gens qui te poussent là-bas. Toi maintenant, ne le suis pas. Rahab faisait la prostitution avec les habitants de Jéricho. Mais à l'arrivée d'Israël, Rahab ne faisait plus la prostitution. Elle, vous savez que Dieu parfois ne te déplace pas, mais il change seulement ton environnement pour que toi tu changes. Ce que tu as cherché, tu as dit que 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 Dieu défend toujours un homme qui vit dans la grâce. Tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as Dieu a effacé tous les habitants de Jéricho. Et là, j'ai compris une chose. La prostitution de Tamar, de Rahab, parfois, n'était pas indépendamment de sa volonté. Peut-être il était bipé par certaines personnes. Peut-être elle était bipée par certaines personnes, peut-être. Et disant à lui, non, je dois enlever ces gens-là qui viennent te biper. Reste comme ça. Et Rahab est resté là. Et la Bible dit, Rahab va avoir Obed. Obed donne naissance à Isaï. Isaï donne naissance à David. Et David engendra de la femme de Bathsheba, Salomon. On a encore cité la femme de Bathsheba, nous avons la femme de Uri, Bathsheba. On a encore. Et Bathsheba, nous savons tous comment elle a. Comment David l'avait pris. Nous savons. Et dans l'histoire de ces quatre femmes, il y a toujours quelque chose de bizarre. Mais à la fin, il y a quelque chose de bien. Il y a quelque chose de bizarre. Mais à la fin, il y a quelque chose de bien. C'est bizarre, mais c'est bien. Le croissant de la grâce. C'est bizarre, mais c'est bien. Dans l'histoire de ces quatre femmes, il y a vraiment quelque chose de bizarre, vraiment. Comment expliquer vraiment? C'est bizarre ça. C'est bizarre. Mais c'est bien. C'est bizarre. Ma prière, les gens diront que c'est bizarre. C'est bizarre. Mais, c'est bien. C'est bizarre. Mais c'est bien. Lèvons-nous dans la prière. Jésus, tu es merveilleux. Je ne suis pas venu t'encourager dans les mal. Ce n'est pas bien, mon frère. Mais je prêche que la grâce. À partir de ce qui est bizarre, le Seigneur peut faire sortir quelque chose de bien. Alors n'ayez pas honte de ce qui est bizarre dans ta vie. Dis à Dieu, Seigneur, fais une équation dans ma vie. C'est bizarre, mais c'est bien. Merci, Jésus. Prions le Seigneur, notre Dieu. Nous sommes en train de prier le Seigneur. Nous sommes en train de prier le Seigneur, notre Dieu.